C'est vers, je pense, vers 12-13 ans, j'ai découvert... D'abord, j'étais première en français, c'était à peu près la seule matière dans laquelle j'étais bonne à l'école. J'ai découvert que écrire était un geste consolateur. En ce sens où on est un peu dans une position fœtale comme ça au-dessus de la table et qu'on a un éprouvé flou, et le traduire en signe, le poser sur une page était une chose qui soulageait.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Quand vous la croisez, vous êtes frappé par sa longue silhouette agile, cette allure de danseuse qu'elle n'a jamais perdue, comme sa coupe d'ailleurs et ses longues écharpes, frappées aussi par la chaleur de son sourire. Il y a visiblement en elle une disponibilité, une curiosité, une chance qu'elle vous donne de l'intéresser. Sa valise de douleurs, sa tragédie, ses parents découverts morts quand elle n'avait que 8 ans, elle en a fait l'objet d'un livre sensible et émouvant en 1992, Le voile noir. D'autres récits ont suivi. Le dernier au seuil s'intitule Les photos d'Annie. Écrire, jouer, dessiner, peindre, prendre des photos, elle a puisé de la force dans l'art. C'est une actrice célèbre, théâtre, cinéma, télé, épouse et mère de famille durant 25 ans dans Une famille formidable de Joël Santoni, et c'est un auteur populaire. Bonjour Annie Dupéré.
Bonjour.
Vous l'aimez, vous le revendiquez cet adjectif populaire?
Oui, bien sûr. D'autant que c'est très agréable. J'ai ce que j'appelle une notoriété douce, comme les drogues du même nom. C'est-à-dire que j'ai reconnu chez certains de mes collègues artistes qu'il était souvent assez difficile pour les chanteurs ou les comiques d'avoir un rapport sain avec le public sans que les gens vous tapent dans le dos ou vous hurlent les oreilles comme ça. Non, avec quelqu'un qui écrit et qui joue, comment je pourrais décrire ça? Vous voyez, si vous habitez longtemps dans un quartier, les commerçants finissent par vous tutoyer, par vous appeler Annie, etc.
C'est votre cas,
c'est étendu à toute la France.
Ah oui, c'est étendu à toute la France, comme dans un quartier. La France, c'est votre quartier.
C'est mon quartier.
Ah, c'est sympathique, effectivement, et c'est doux. En tout cas, bienvenue dans le Grand Atelier. Le mot atelier doit vous plaire, parce que vous avez habité des ateliers.
Oui, j'ai habité des ateliers. J'ai toujours eu un fantasme sur les ateliers, parce que ça, je l'avais raconté dans mon précédent livre, là, le rêve de ma mère. J'avais commencé effectivement par les beaux-arts et l'envie d'être peintre, notamment avec une grande amitié que j'ai eue avec mon professeur de peinture qui s'appelait Robert Savary, qui n'est plus de ce monde. Et avec lequel nous avions une connivence un peu particulière, parce que j'étais toute jeune élève. J'avais 15 ans quand je suis rentrée aux Beaux-Arts, deuxième sur concours, j'en suis encore fière. Et je suis restée 2 ans, et j'allais rentrer en section peinture, quand un orientateur professionnel, parce que ma tante était un peu inquiète quand même de me voir me diriger vers un métier difficile comme ça, a eu cette idée tout à coup de me faire inscrire au Conservatoire d'art dramatique, pour que je continue à étudier des textes. Alors, puisque aussi, par ailleurs, elle fait l'andouille de temps en temps, pourquoi est-ce que vous ne l'inscrivez pas au Conservatoire d'art dramatique? Et c'est comme ça, finalement, que j'ai bifurqué vers la comédie et que je me suis détournée de la peinture, un petit peu à la déception de mon prof qui est resté un ami toute sa vie.
Quand vous êtes dans votre maison dans la Creuse, est-ce que vous peignez?
Alors, je peins rarement parce que, effectivement, c'est vrai que quand j'ai du temps ou quand j'ai un sujet, j'écris plutôt. La peinture reste un vieux rêve où je me dis un jour, comme certaines personnes disent, un jour je ferai le tour du monde à la voile, un jour j'entrerai en peinture. C'est-à-dire qu'un jour, je me dis, je consacrerai assez de temps pour arriver à découvrir ma manière de peindre. Parce que pour le moment, je peins comme j'aimerais peindre. Ceux qui peignent un peu comprendront ce que je veux dire. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut arriver à peindre, à trouver son langage en faisant fi de ses goûts et de ses admirations. Bon, je sais que j'ai une palette. Mon Robert Savary me disait toujours un peu en douce, à côté des autres élèves, on a la même palette. Et c'était un peintre maticien. On avait les mêmes couleurs de prédilection, presque la même touche. Donc, qu'est-ce que je fais quand j'ai envie de vérifier que les dons restent? Je me fais un petit Dufy ou un petit Matisse ou un Vandongen, mais ça ne me fait pas beaucoup avancer dans mon langage à moi.
Savary, qui a des fresques ou qui avait des fresques dans la gare de Rouen?
Absolument. Absolument. J'espère qu'il l'a toujours, d'ailleurs.
Le Grand Atelier d'Annie Dupéré, c'est Annie Dupéré, mais ce sont aussi vos invités.
Oui.
Déjà deux autour de vous, à cette table du studio 611 de France Inter. Vous pouvez nous les présenter?
Alors, je vais commencer par présenter la personne que j'ai vue dernièrement, monsieur Alain Pachery, qui est le créateur et le grand directeur du Cirque Phénix, qui est un magnifique chapiteau qui tenait, je crois, 3000 personnes là, cette fois, et qui peut en contenir beaucoup plus.
Il était monté en 3000 personnes pour le Festival mondial du cirque de demain, mais pour ma saison qui était avec le cirque de Pékin, c'était 5500 personnes.
Oh là là, un beau chapiteau de 5500 personnes sur la pelouse d'Aurilly.
On parlera et avec vous tout à l'heure de votre émotion quand vous voyez monter des artistes sur la piste. Et à côté de vous, alors, c'est une femme, si je ne m'abuse.
Alors, c'est une femme, Elle va dire son nom parce que j'écorche son nom depuis toujours, je l'américanise. C'est Caroline, non
Rouellance.
Pas Rouellance, et non pas Roland.
Rouellance, mais
en même temps, tu peux dire Roland, c'est pas
Roland. C'est
joli, alors il y a aussi
comme ça. Ça fait chic, oui.
Il y a des Rouellance en Picardie.
Il y a des Rouellance en Picardie, mais des Rouellans avec un T. Avec le S, c'est moins.
Il y a même des Rouellans avec un D. Voilà.
Avec un D, ouais.
Dit le Picard de naissance.
Alors, Caroline.
Alors, pourquoi Caroline Rouellance?
Très belle artiste, voilà. Une danseuse, actrice, chanteuse et chorégraphe. Et elle fait la chorégraphie actuellement d'un spectacle, un grand beau spectacle qui va être le Normandie. Donc elle manie, si j'ose dire, pas mal de gens, de danseurs. Et moi je la connais parce que elle avait fait une comédie musicale que j'adorais, parce que j'avais tâté un jour de la comédie musicale avec Bernard Giraudot. Le petit monde du musical français, je le suivais avec attention. Et avec Joël Santoni, nous avions eu l'idée, en commun d'ailleurs, de terminer une de nos familles formidables en comédie musicale. Et là, j'ai pu vérifier que Caroline ferait danser une bûche. Parce qu'elle a quand même réussi à faire un final à Bernard Lecoq, qui, je crois, au niveau enclume, au niveau des pieds, c'est pas mal. Lui-même le dit, d'ailleurs. Il est incapable de faire deux pas. Et voilà, elle a réussi à le faire danser, ce qui est quand même...
Et ben on va vous retrouver tous les trois. Annie Dupéret, Caroline Rouellance et Alain Pacherie. Je voudrais qu'on écoute un peu de musique. Vous m'avez dit, Annie Dupéret, vous vous débrouillez, hein, vous êtes gentil pour la programmation.
Pour la musique, parce que alors, ça,
avec
c'est un casse-tête à chaque
Valérie
fois.
Ayessara et la réalisatrice, on est allé voir notre amie Thierry Dupin, qui nous a proposé, entre autres, Clara Luciani.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle dont j'ai l'air? Souvent je change. J'ai enlevé mes bijoux, démaquillé le noir.
l'impression d'avoir fort peu mené ma vie. Je veux dire par là que je n'ai pas véritablement choisi les chemins que j'ai empruntés. Je connais des gens qui, à l'inverse, ont vraiment voulu ce qu'ils sont devenus. Métier, carrière, choix d'une vie différente de celle qui leur était destinée ou paraissait tracée d'avance. Ils ont poursuivi un but, certains même dès leur prime enfance, avec obstination pour atteindre cette vision personnelle qu'ils avaient de leur avenir. C'est pas mon cas. Je veux pas dire que j'ai été totalement le jouet du hasard, faible chose ballottée de ci de là par les événements, non, non. Il y eut des choix, bien sûr, car un solide instinct me guidait, me poussait à prendre telle décision, accepter un projet ou écarter tel autre, et encore. Encore, le mot « écarter » est-il trop volontariste pour le fonctionnement personnel que je tente d'éclaircir? Il serait plus juste d'écrire que je m'en écartais, que j'évitais, je contournais, tout à fait comme une bête qui renifle une nourriture qui ne lui conviendra pas et s'en va sans y toucher. Ce même sur-instinct aussi me poussa vers des êtres, des entreprises artistiques qui m'ont formé, nourri, enthousiasmé. Vers cela, je suis allé sans hésitation, ni réticence aucune, d'un seul mouvement, et je ne l'ai jamais regretté.
Un extrait du rêve de ma mère, votre livre, Annie Dupéré, paru en 2017. Vous n'avez pas eu d'ambition. C'est assez rare d'entendre ça.
Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais eu de projection de moi dans l'avenir idéal. De me dire, tiens, je voudrais être ceci, je voudrais être une tête d'affiche, je voudrais être une grande, ceci, cela. Je n'avais aucune projection et c'est drôlement pratique. Parce que ça vous évite d'abord toute déception, puisque ce qui arrive est bon. Et toute jalousie, puisqu'on n'envie personne. Et je suis très très heureuse d'avoir eu ce drôle de caractère, de prendre les choses comme elles venaient, presque sans rêver à quoi que ce soit.
Vous n'avez jamais été jalouse d'une consoeur?
Absolument, jamais, jamais, jamais.
C'est bien.
C'est très confortable.
À défaut d'avoir de l'ambition, écrivez-vous un petit peu après dans le rêve de ma mère, j'avais, et c'est un mot que j'aime bien parce qu'on l'emploie plus beaucoup, j'avais de la moralité.
Absolument.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ah, j'avais de la moralité, oui, oui. C'est-à-dire que si je faisais quelque chose, effectivement, je devais le faire très bien. Je devais le faire en amitié avec les gens avec lesquels j'étais. J'avais quand même retenu au conservatoire... un des grands préceptes de, puisque j'étais au conservatoire avec René Simon, pas dans son école, mais dans sa classe au conservatoire. Et lui, et le prof que j'avais eu avant qui était magnifique, avait un principe pour les acteurs que je trouvais merveilleux. Fais que ton partenaire soit le meilleur possible.
C'est beau ça.
Alors donc c'était absolument l'inverse des gens qui jouent à la bagarre, qui cherchent à prendre le dessus, à faire un effet avant les autres, à leur mettre des bâtons dans les roues. Moi c'était au contraire, effectivement, et c'est tout à fait judicieux. Parce que plus on aide son partenaire à être bien, plus il vous rend, et plus vous avez de chances d'être bien vous-même.
C'est un calcul.
Voilà, donc ça c'est une moralité du métier que j'ai reconnue mienne immédiatement et que j'essaie de mettre en pratique depuis toujours.
Karen Dehé a retrouvé une archive qui vous concerne. Vous êtes jeune femme, vous êtes jeune actrice rouennaise et dont le talent est reconnu déjà.
Ce soir, Annie Dupéré ne jouait pas pour les spectateurs du théâtre Michel, mais pour Jean Chevrin, son ancien professeur du conservatoire de Rouen et quelques-uns de ses camarades de cours. Annie est rouennaise et chaque lundi, le théâtre Michel faisant relâche, elle vient passer la journée chez sa grand-mère rue Saint-Patrice.
Annie Dupéré a été mon élève pendant 2 ans à la classe d'art dramatique du conservatoire de Rouen. À la suite de quoi elle est entrée brillamment, à la quasi-unanimité, au Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris, en compagnie de son camarade Patrick Chenet, dans la classe de René Simon. Annie Dupéré, alors nommée Annie Legras au Conservatoire de Rouen, présentait en effet des qualités exceptionnelles.
Annie Dupéré, vous portiez, il y a quelques semaines encore, le nom d'Annie Legras. Pourquoi avez-vous choisi ce pseudonyme d'Annie Dupéré?
Tout d'abord, j'étais assez embarrassée sur le choix d'un pseudonyme. J'ai imaginé pas mal de noms. Puis Monsieur Meyer m'a demandé tout simplement de chercher dans la famille. Alors j'ai tout de suite pensé à grand-mère.
Je vais demander alors à la tante, à l'heureuse tante, si Annie, très jeune, a fait preuve de ses dons spectaculaires.
Elle avait surtout les dents pour le dessin, mais sûrement comme je ne voulais pas prendre l'initiative moi-même, je l'ai emmenée au centre d'orientation professionnelle. Et là, on lui a conseillé de suivre des cours d'art dramatique. J'étais un peu surprise. D'ailleurs, quoique très jeune, elle aimait les déguisements, elle aimait jouer avec les marionnettes, enfin tout ce qui touchait au théâtre.
Cette silhouette, c'est celle d'une grande jeune fille toute simple qui rêve de Paris. Il semble que Paris soit prête à l'adopter, bien des Rouennais s'en réjouiront.
Et savez-vous pourquoi j'ai choisi un pseudonyme? J'étais pas mécontente d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'étais un peu fâchée avec mes parents pour être mort. Je leur en voulais un peu. Donc le gras, peut-être, j'avais pas envie de... voilà, leur nom. À l'époque, on allait me demander sans arrêt si j'étais la fille de Jacques Legras.
Ah oui.
Il y avait aussi la raison principale, c'est-à-dire que j'ai été engagée par Jean Meyer alors que je venais de rentrer au conservatoire et qu'on n'avait pas le droit de jouer sous son nom d'élève. Donc j'étais obligée, quelque part, de changer de nom.
Jacques Legras qui faisait des caméras cachées par la suite, hein, mais
voilà,
qui était
c'est ça.
Un comédien au départ. On a entendu la très belle voix de votre professeur
Jean
de théâtre,
Chevrin, Jean Chevrin. Extraordinaire.
Extraordinaire parce qu'il a eu beaucoup d'élèves qui sont devenus célèbres en montant à Paris.
Oui, il y a Valérie Lemercier, il y a Karine Viard, il y a Dubosc, Jean-Michel Dupuis. Il y a eu plein de gens qui sont sortis de chez lui. Et c'est vrai que c'était un professeur extraordinaire et qui avait enseigné chez Simon aussi. Et ils avaient une éthique tous les deux, une philosophie du métier qui était tout à fait formidable.
Alors il y a quelque chose qui vous rend joyeuse, entre autres, c'est le cirque. On va en parler avec vous et l'un des grands amoureux du cirque, Alain Pacherie, qui préside le Cirque Phénix, un passionné comme vous. Vous m'avez permis, Annie Dupéré, de vous rejoindre il y a quelques jours au Cirque Phénix, précisément lors du Festival Mondial du Cirque de Demain, qui fêtait sa 40e édition. Vous
voilà,
étiez la présidente.
Alain m'avait fait l'honneur de me demander de présider le jury. J'étais très intimidée, je dois dire.
Dans le 12e, pelouse de Reuilly, il était environ 14h15. Le public commençait à s'installer, l'orchestre aussi, et nous étions à votre table, la table des jurés, puisqu'encore une fois, vous étiez présidente.
Alors voilà.
Où est-ce qu'on est, Annie Dupéré? Où est-ce que vous nous emmenez?
Alors là, nous sommes dans le superbe chapiteau Phénix, du Cirque Phénix, au Festival Mondial du Cirque de Demain. C'est la 40e édition de ce festival qui réunit tous les jeunes, les meilleurs jeunes numéros mondiaux. Il y a des choses absolument... Moi, j'ai suivi ce festival du cirque, passionnée par le cirque comme je suis, depuis le début. Au Cirque d'hiver, ça avait lieu au Cirque d'hiver. J'y allais tous les ans, j'emmenais mes enfants, j'emmenais des amis, voilà. Et puis là, je suis revenue il y a quelques années et Alain Pacherie, le directeur, m'avait demandé de remettre un prix l'année dernière et d'être carrément présidente du jury cette année. Je suis dans mes petites godasses.
C'est du boulot, président?
Ah oui, c'est du boulot. Alors c'est vrai que j'ai toujours aimé le cirque, c'est vrai qu'il y a une tradition familiale, il y a ce cirque.
Ma grand-mère était caissière dans un cirque.
Ma grand-mère, mon grand-père projectionniste surtout, de ce cirque théâtre encore en Normandie, qui est le dernier cirque théâtre de France, je crois.
Elbeuf,
voilà. Et donc j'ai toujours aimé ça. Et puis comme j'avais fait moi-même, au bout d'un moment, à force de passion, un jour quand même, on m'a proposé de faire un gala de l'Union. Donc j'ai fait 3 galas de l'Union au trapèze, dont je garde, c'est les souvenirs de ma vie les plus forts presque. Parce qu'on travaille pendant 4 mois pour tout à coup faire un numéro, une seule soirée absolument magique.
3 mois de patience, 3 mois de répétition. La très belle Annie Dupéré.
Et donc, c'était des souvenirs magnifiques. On faisait des choses incroyables à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de sécurité en plus. On a fait des lâchers par les pieds à 15 mètres au-dessus du public. Quand je revois ça en vidéo, je me dis, mais sans sécurité du tout. Mais on était complètement fous. On n'avait pas envie de tomber. Hein.
Qui était votre porteur?
Alors, j'ai eu Francis Perrin comme porteur. Il a été courageux quand même de se taper, si j'ose dire, une voltigeuse de 70 kilos. Généralement, elles en font 45. Et en plus, Francis, il m'a porté par les dents.
Annie Dupéré.
Pourquoi le trapèze, vous, la danseuse Annie Dupéré?
Oh, mais je suis passée par différentes choses. D'abord, on a essayé de me coller à la corde lisse, vous savez. Parce que j'avais tout pour ça, j'étais grande, j'avais les grandes jambes longilignes, j'avais fait 15 ans de danse classique, donc tout de suite on vous colle à la corde lisse. Et moi la corde lisse, ça m'ennuyait beaucoup, d'abord ça fait mal, terriblement mal partout. Après j'ai fait le patin à roulettes, j'avais aussi les jambes trop longues, on a arrêté au bout de 15 jours. Et puis après ça a été le trapèze et là vraiment j'ai adoré ça.
Je vous verrais bien aussi essayer le clown, est-ce que je me trompe? Parce que quelquefois sur scène, vous êtes clown, Annie Dupéré.
Oui, tout à fait, oui, ça c'est une chose peut-être qui m'aurait tenté, je ne sais pas. Il faut trouver son clown déjà. Il faut essayer de trouver son personnage, ce qui n'est pas forcément évident.
Vous avez une idée de votre clown, vous?
Non, j'ai pas vraiment une idée. Ça doit être un grand truc maladroit, certainement.
Avec Jean-Louis Barrault, quand vous jouiez L'amour de l'amour, revisitation des textes de la mythologie, avec lui entre autres, vous étiez à un moment une Vénus ivre, il y avait du clown.
Ah oui, 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 c'est vrai.
Qu'est devenu l'amour? Et qu'on le savez-vous? Il ne peut plus longtemps déserter la nature. La vie, pour sa survie, a besoin de l'amour. La plante reverdit dès l'instant qu'on la chante. Les animaux, pour conserver l'espèce, ont recours au plaisir. Sinon, tout devient sec. Désunion, discorde, la peur engendre la haine, et tout s'anéantit.
Mais Jean-Louis, il m'aimait beaucoup. Il me disait toujours, il m'a dit souvent, « T'es ma fille de théâtre ». Il dit, « J'ai pas eu d'enfant, mais j'en aurais eu un, tu serais ma fille de théâtre ». Et c'est vrai qu'il aimait bien, il m'a toujours, Jean-Louis, engagé, employé dans l'excès. C'était soit une Vénus complètement pétée parce qu'elle avait rencontré Bacchus, soit c'était dans le nouveau monde de Villiers-l'Isle-Adam, où je faisais une empoisonneuse, une héritière écossaise qui se trimbalait avec des poisons dans les poches. Je m'étais fait la tête de la reine de Blanche-Neige. J'avais été retournée voir Blanche-Neige, rien que pour me faire le maquillage de la reine de Blanche-Neige.
On pense souvent à vous et à la petite fille qui a vécu la tragédie que l'on sait en perdant ses parents, mais peut-être qu'on ne sait pas effectivement qu'il y a ce plaisir de rire et de faire rire chez vous et en
oui.
vous.
Oui,
c'est venu quand?
C'est venu en découvrant l'art, en découvrant le jeu, effectivement. J'ai toujours eu beaucoup de mal, par exemple, dans ce métier de comédienne, où je suis venue non pas par hasard, mais quand même un peu, j'allais rentrer en section peinture aux Beaux-Arts, moi je voulais être peintre, surtout. En fait, ce qui m'a décidée à la comédie, c'est d'avoir des camarades. Chose qu'on n'avait pas aux Beaux-Arts. On est seul devant sa toile, on est seul devant sa feuille ou son bloc d'argile, et on n'a pas de camarades. J'avais pas beaucoup de camarades à l'école parce que j'étais très en retard, j'étais 15 cm plus grande que les autres, enfin. Et j'avais ce truc d'orpheline qui vous met très à part, quand même. Faut bien dire que quand on a trouvé ses parents morts à 8 ans et demi, c'en est un peu fini de l'enfance. Je veux dire, de la vraie enfance innocente, quoi. Donc j'étais un peu à part, aux Beaux-Arts j'étais un peu dans la solitude de la création, et tout à coup, j'ai découvert qu'en jouant, il y avait un côté à toi, à moi, on se mettait en scène, il fallait discuter, il fallait voir comment on allait faire les choses ensemble. J'ai découvert cette merveille d'avoir des copains. Alors c'est vrai que ça m'a... J'ai jamais été une actrice penseuse intellectuelle, voilà. C'est vrai que je jouais Giraudoux et Shakespeare au Théâtre de la Ville et que j'étais tous les soirs au cabaret chez Jean-Marie Rivière à l'Alcazar ou au cirque.
Parce double que, Annie.
Oui, j'aime une sorte de côté pragmatique, artiste pragmatique.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est le contraire de l'intellectualisme. C'est-à-dire qu'attention, on fait des choses risquées, on fait des choses très belles, on fait des choses très travaillées, mais il y a une sorte de franchise, de déguisement. Du côté résie, du côté allez on y va, on se colle un coup de poudre et puis on va faire de l'esbrouf comme ça, travailler. Mais ça c'est une chose qui... Je me sens chez moi avec ces gens-là.
On dirait que vous avez un peu peur de l'intellectualisme ou d'une artiste cérébrale. Qu'est-ce que vous redoutez?
C'est pas que je le redoute, c'est que ça m'ennuie. Le plus souvent.
Vous êtes quelqu'un qui écrit, vous êtes quelqu'un de l'écrit.
Oui, donc,
qui pense, qui réfléchit, qui pose des mots, qui cherche des mots.
Oui, mais j'adore ça. C'est pas que je redoute. C'est que je privilégie le jeu.
Là, vous êtes à votre place, alors, devant ces artistes du monde entier qui vont venir, là, dans quelques minutes.
Oui. Si vous voulez, le cirque, pour moi, c'est le courage. C'est le courage, quoi. De tout temps, j'ai pensé ça. C'est pour ça que ça m'estomaquait. C'est que, sur une piste ronde, avec des gens de tous les côtés, arriver... Oser se présenter sans le support d'un auteur, sans texte, pour dire tout simplement « voilà ce que je sais faire », je trouve que c'est le courage le plus extraordinaire.
Le Grand Atelier sur France Inter. Yeah.
the wrong vibration.
Les Belges de Balthazar, Wrong Vibration. Caroline Roelens, vous, la chanteuse, la comédienne, vous qui aimez les revues, qui mettez en scène, qui faites danser, vous qui êtes chorégraphe, vous avez découvert là la Annie Dupéré trapéziste?
Alors, j'en avais entendu parler d'Annie Dupéré la trapéziste. En fait, j'ai rencontré Annie il y a quelques années sur Une famille formidable, parce que j'étais allée faire les chorégraphies de certains épisodes.
Elle dansait comment, Annie Dupéré?
Elle dansait très bien.
Juste dites à côté ça par flagornerie.
Non, du tout. Non, ça, elle dansait très bien, elle chantait très bien, c'était super, très intéressant d'ailleurs de travailler avec toute cette équipe. Mais pas vraiment comme trapéziste, en fait. Pas
non,
encore,
mais non, mais non, bah non.
On ne sait jamais.
Que... Ah ben non, moi, je remonte plus. Hein. Je dis tout de suite.
De toute façon, moi non plus. Je
dis... Alain Pacherie, vous avez entendu ce que disait Annie Dupéré dans votre cirque, le Cirque Phoenix, il y a quelques jours. Elle a dit, Annie Dupéré, être un artiste de cirque, être un circassien, c'est le courage le plus extraordinaire. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle veut dire et qu'est-ce qu'elle veut dire?
Bien sûr que je comprends ce qu'elle veut dire, puisque je suis également président de l'Académie Fratellini, donc je vois plein de jeunes qui se destinent à ce métier. Et je voyage à travers le monde pour chercher les artistes de mes spectacles. Et c'est vrai que vous voyez des jeunes qui, pendant des années, souffrent en faisant leur numéro avant que ça devienne facile, entre guillemets, pour les yeux du public. Et il faut vraiment beaucoup de courage. Ils savent qu'ils ne seront jamais riches, jamais célèbres, et ils se consacrent au cirque.
On n'est pas riche quand on est circassien, même à un haut niveau?
À un haut niveau, on gagne bien sa vie, mais on n'est pas riche. Et les carrières sont courtes, parce que très vite, le corps ne peut plus répondre à tout ce qu'on lui demande.
À quel âge on arrête?
À 30 ans, il faut commencer à réfléchir, à devenir peut-être professeur, ou à enlever les figures les plus compliquées, les plus difficiles, les plus dangereuses. À partir de 30 ans, il faut réfléchir à une reconversion un peu.
Alors votre parcours à vous, Alain Pacherie, on a envie de savoir, Annie Dupéré, d'où vous venez. Vous n'êtes pas un circassien à l'origine?
Non, je ne suis pas un circassien. Je suis à 20 ans passionné de spectacle. Je découvre le spectacle. À 17 ans, je vois Johnny Hallyday à l'Olympia pour la première fois. Je suis pas fan, mais je vois des danseuses, des lumières, cette voix incroyable.
Et des fauteuils cassés?
Et des fauteuils cassés. Quelques mois plus tard, je vois Liza Minnelli. Alors là, c'est le bouleversement total. Je me dis, faut que je fasse quelque chose dans ce métier du spectacle. Peut-être porter la valise d'un artiste, cirer ses chaussures, lui apporter le café. J'en sais rien, mais c'est magique. Je voudrais faire quelque chose. Et puis, j'ai des amis dans ces années-là qui jouent de la guitare dans la cave de notre cité. Et un jour, je leur dis, je vais vous chercher des contrats. Une agence qui avait ses bureaux à la salle Pleyel avait une défection pour 48 heures plus tard d'un groupe. Elle engage mon groupe en me disant « Votre batteur est mauvais, mais je vous prends quand même ». J'étais chercheur de contrat, disons, plus que manager. Et puis, avec cette femme, elle nous a donné plusieurs affaires. Et donc, un jour, je dis « Écoutez, je voudrais faire des spectacles de Noël, parce que dans les boîtes où j'avais travaillé avant, il y avait des spectacles de fin d'année ». Alors que son père, cette dame, avait été agent de cirque. Donc elle avait un fichier d'artistes de cirque. J'ai trouvé ce que j'allais faire. J'allais m'occuper d'artistes de cirque. Et ça a été une passion parce que ces artistes sont d'une générosité incroyable. Ils sont d'un courage absolument incroyable. Ils se blessent, mais recommencent. Et à chaque fois, je suis bluffé quand je voyage à travers le monde, parce qu'il m'arrive d'aller dans des écoles où, quand il pleut, il pleut à l'intérieur. Je m'en souviens, quand je suis allé en Tanzanie, il pleuvait dans l'école. Ou à Cuba, il n'y avait pas de toit. Mais les artistes se défoncent quand même pour essayer d'avoir des numéros incroyables, séduire le public, toucher pendant 3 ou 4 minutes un public. Et c'est un langage international.
International, c'est ça qui est formidable.
C'est ça qui est incroyable. Voilà,
il n'y a pas de barrière du langage.
Quand je suis venu vous interviewer, j'ai vu le spectacle et j'ai vu des Chinois extraordinaires.
Oui, bien sûr. Voilà.
Les Chinois sont toujours extraordinaires depuis des milliers d'années, il faut bien le dire.
Bah, ils ont inventé l'acrobatie il y a 5000 ans.
Bah oui, c'est ça.
Et puis les écoles, il y a 120 écoles professionnelles en Chine, 18 000 artistes, ils savent tout faire. Les artistes sont jongleurs, acrobates, voltigeurs, enfin ils sont vraiment multidisciplines. Alors ils sont meilleurs dans certaines disciplines que dans d'autres, bien sûr, donc c'est ce qui fait les solistes, mais ils savent tout faire, c'est la façon d'apprendre le cirque en Chine.
Qu'est-ce que vous avez vu surtout comme discipline cette année quand vous étiez présidente du jury du Festival du Cirque Mondial de demain ?
Là, je ne saurais pas vous les citer. J'ai tout vu, y compris deux clowns qui ne sont pas appelés clowns, qui sont appelés excentriques, les petits Français qui étaient jongleurs et que j'ai trouvé vraiment plein de talent avec un formidable contact avec le public. Un trapéziste sublime.
Vous avez entendu Annie Dupéré dire « Moi, mon clown, ça doit être un grand truc maladroit ».
Je crois que c'est le plus difficile.
Oui.
Il y en a toujours autant ?
Non, il y en a beaucoup moins.
On se forme moins aux clowns ?
On se forme beaucoup moins aux clowns. Il y a beaucoup moins de cirque aussi. Le cirque a aussi ses difficultés. Il est en train de se renouveler. C'est pas la première fois que le cirque a des difficultés. Il a toujours rebondi. Il saura rebondir encore une fois.
Mais ce qui me touche beaucoup chez Alain, c'est qu'il s'occupe aussi d'associations. Raconte-nous ça, parce que ça, c'est formidable. D'envoyer des clowns, par exemple, dans des pays en guerre, où tout à coup, avec un, comme il dit, un chiffon rouge et quelques nez, il va faire rire des enfants qui sont dans des lieux absolument dévastés, puis d'autres associations
oui,
aussi.
Oui, bah, c'est de Clowns sans frontières qu'Annie parlait, c'est une association qui envoie dans des lieux de guerre, des artistes bénévoles, bien sûr, qui partent avec quelques planches et un rideau rouge, parce que ça, le rideau rouge, c'est le spectacle, dans n'importe quel pays du monde, et ils installent ça sur une place, et puis il y a des enfants, les mamans qui viennent, qui regardent, et au bout d'un moment, vous voyez des dizaines de gosses avec le sourire alors que c'est un pays qui est en guerre, des dizaines de femmes qui se réjouissent de voir aussi leurs enfants sourire.
Le côté universel
peut-être.
Du clown.
Exactement.
Mais pourquoi il y a moins de clowns et pourquoi on en forme moins ?
Parce qu'il y a moins de spectacles de cirque, il y a moins de cirque aussi. Et puis peut-être que le clown n'a pas su se renouveler comme le reste des artistes de cirque. Parce que les artistes de cirque maintenant mélangent des disciplines pour créer des nouveaux numéros. Le clown c'est moins renouvelé. Alors maintenant, on parle plus de burlesque, parce que le clown avec le nez rouge, la perruque qui tourne, c'est un peu dépassé, quoi. Les artistes doivent vivre leur époque aussi, doivent apporter des choses.
Alors ce serait quoi
époque.
Pour vous un clown idéal aujourd'hui, en 2019
ben, moi, je trouve que le numéro burlesque, il faisait un jonglage avec des cartons.
Oui.
C'est du clown, quoi.
C'est du clown, absolument.
C'est du burlesque.
C'est un clown moderne. Madonna Buglione m'avait raconté un jour l'origine du clown blanc et de l'Auguste. Je ne sais pas si l'histoire est vraie. En fait, le clown blanc, qui est quand même assez étrange, avec son costume à paillettes, ses espèces d'ailes qu'il a sur les côtés, comme de larges hanches, comme ça, c'est la mère. Elle est maquillée, elle va sortir le soir, elle a son rouge aux lèvres, elle a ses petits bas de soie et ses petites chaussures, elle a ses larges hanches de mère et sa robe à paillettes parce qu'elle va sortir. Elle a son sourcil sévère de mère. Auguste a 6 ans, il a mis les vêtements de son père... Donc chaussures trop grandes, pantalons trop grands, et il fait que des conneries.
Viens t'asseoir ici, tu sais, non ? Hé, oh, bouge-toi. Bon, comme tu veux. Moi, je vais m'asseoir ici, voilà. Eh oui, seulement avec moi, ça marche pas, ça. Eh oui. C'est bientôt fini, oui ? Viens t'asseoir ici, tout de suite. Bon, on va pouvoir commencer. Oh, c'est merveilleux. Maestro, s'il vous plaît, musique.
Et quand elle m'avait raconté ça, je me suis dit, mais c'est absolument, mais c'est lumineux.
Vous, je vous vois, Auguste. Hein.
Mais vous savez, on parlait d'intellectualisme tout à l'heure. C'est vrai que, généralement, quand je travaillais un rôle, il y en avait un spécialement, que je n'ai trouvé que lorsque j'ai trouvé mes chaussures. La fille sur la banquette arrière, qui était une comédie où je faisais une jeune femme terriblement maladroite au début, c'était un peu mon clown, ça. J'ai trouvé vraiment le personnage le jour où j'ai dégoté des espèces de sandales d'enfants, vous savez, à trou-trou, comme ça, avec une bride, du 42 à semelle débordante, moi qui fais du 41. Et le jour où j'ai trouvé mes godasses qui me faisaient pataude comme ça, j'ai trouvé mon personnage. Trouver sa chaussure, c'est trouver son clown aussi, oui.
The stakes get higher. I've got the cash. much more to lose. I am swimming in an ocean of sharks. They are telling me how I'm gonna make my little mark in this cold, cold world. It can be such a cold, cold world.
Macalade, Capitalist Blues, c'est pas mal cette musique,
c'est
après
bien,
le cirque. Hein,
oui, oui, c'est super bien.
On a parlé de Jean-Louis Barrault qui vous a souvent dirigé. Il y a un autre homme d'ailleurs de théâtre, Jean Mercure,
oui,
qui
absolument.
A été le patron du Théâtre de la Ville et un grand metteur en scène. C'est un peu les deux premiers hommes de votre vie. Hein.
Oui, c'était mes deux pères de théâtre quelque part. Ils étaient très complémentaires parce qu'il y en avait un qui était d'un tatillon et d'une exigence, Jean Mercure, à la limite du supportable quand même. Et il y avait Jean-Louis qui avait quelque chose de circassien, parce qu'il venait du mouvement du corps quand même, il venait du mime, il était, Dieu sait, ô combien cultivé, et quand il parlait du théâtre c'était quelque chose, il avait ce côté très instinctif et physique comme ça, qui, je raconte souvent que quand il avait engagé un acteur qui se prenait un peu la tête en disant, écoutez, Jean-Louis, parle-moi du personnage parce que, vois-tu, je comprends pas bien la motivation, etc. Il avait cette devise que j'adorais, il lui disait, oh, je t'en prie, mal, mais vite.
On entend la virgule.
Oui, 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 oui. C'est-à-dire qu'il fallait y aller, quoi.
C'était, lui-même faisait ça sur scène.
Oui, c'était un gamin en scène. Il en faisait des tonnes.
Il vous piquait un peu la vedette parfois, non?
Non, mais non. Il y a un jour dans L'amour de l'amour, effectivement, il me faisait louper. Il avait réglé lui-même quand même. Les musiques s'enchaînaient, donc on pouvait pas faire autrement. Il faisait un dragon qui se beurrait la gueule comme ça. Voilà, un dragon comme ça. Il devait sortir et ma musique s'enchaînait. Et il en faisait tellement que, effectivement, il buvait, ça lui coulait par la manche, après ça lui coulait par le pantalon. Il sortait pas et je loupais ma musique d'entrée. Et un jour, comme on était quand même très amis, j'ai dit, Jean-Louis, c'est tout simple, si tu n'es pas sorti à ma musique, je ne rentre pas. Et donc, il fait, il est dans son dragon, comme ça, il me jette un regard en coulisses et il fait, oh, oh, je m'en vais. Et donc, je rentre sur ma musique et là, j'entends le public qui hurle de rire. parce que il avait passé la queue de son costume de dragon sous le rideau pour faire rire les gens. Donc
on voyait sa queue de dragon.
Jean-Louis était foutu de faire des blagues en scène, etc. Et même, voire, d'abîmer un peu sa propre mise en scène pour faire le clown.
D'ailleurs, quand il parle très sérieusement du théâtre, quand il théorise un peu sur le texte au théâtre, on croirait qu'il dit une fable de La Fontaine.
Le texte au théâtre s'appelle le verbe. Le verbe, c'est une danse buccale. C'est des contractions musculaires et des respirations. Ma respiration envoie une voyelle qui est censurée par la contraction musculaire de ma bouche qui crée la consonne. Et avec cette voyelle et cette consonne, mon souffle et mon muscle, je fais la syllabe. Et de syllabe en syllabe, je fais un verbe respiré qui est charnel et qui a une puissance magnétique en dehors de la signification du mot. C'est un obus de DCA qui explose dans l'espace. C'est mon mot. Si bien qu'un cri, si bien qu'un mot qui n'a pas de sens peut être frappant sur une poitrine charnellement.
Est-ce que vous comprenez quelque chose, Annie Dupéré?
Alors, je l'ai rarement entendu faire des démonstrations de ce genre-là, mais on avait des séances de travail tout à fait extraordinaires.
Caroline Roélance, vous écoutez avec beaucoup d'attention l'évocation de ce parcours des années 70, 80, 90 d'Annie Dupéré, qui a eu de grands metteurs en scène. Il y a eu Georges Lavelli, il y a eu Andreas Voutsinas, Bertrand Blier, avec lequel vous avez travaillé
aussi.
Oh
oui,
aussi, hein,
j'adore.
Beaucoup de souvenirs et d'expériences et d'anecdotes, parce que vous savez raconter les histoires. Et puis, la théâtreuse de jour se transforme la nuit et va au cabaret. Est-ce que vous êtes allé avec Annie Dupéré au cabaret, voir des revues, ou est-ce que vous allez l'emmener peut-être dans un cabaret?
Alors, nous ne sommes pas allés au cabaret voir des revues, mais du coup, on va aller quand même au cabaret,
oui,
toutes
oui,
les
oui.
deux pour la première fois, tout
Caroline
bientôt.
Caroline a déjà monté, t'en as fait combien déjà des cabarets Youpi?
Alors,
le
Youpi,
nom est
oui.
formidable.
On en a fait six, et
voilà.
Prochainement, ce sera le septième.
Voilà.
Et Annie sera de la partie, donc.
Ce sera la Nouvelle Ève.
À la Nouvelle Ève,
ouais. Voilà, fin une février. Soirée spéciale avec des bons amis, des beaux artistes, on va s'amuser à faire une soirée extrêmement gaie de cabaret.
Qu'est-ce que vous allez faire?
Ah ben moi je lui ai dit j'ai toujours quelque chose en magasin, c'est Il m'a vu nu de Missinguette, donc je vais ressortir l'hérésie, un peu de plume par-ci par-là. Faut dire que j'avais chanté Il m'a vu nu déjà pour les 20 ans de la Maison de la Culture d'Orléans, le cadeau. J'avais quand même joué peu de temps avant une chose assez tragique quand même, qui était Oscar et la Dame Rose, voilà, assez émouvant.
Schmitt, oui.
Et pour moi, en scène, en train de chanter Il m'a vu nu avec des plumes roses partout, j'avais des gens qui me regardaient avec des yeux comme des soucoupes, en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait?
C'est comment le refrain?
Il m'a vu nu, plus que nu, sans cache-truc ni soutien machin, j'en ai rougi jusqu'au vaccin. Parce qu'il y a des paroles qu'il faut transmettre quand même, qui font partie de la culture française.
Vous aimez la chanson réaliste, vous, Damia?
J'ai beaucoup, beaucoup aimé les vieilles chansons. J'ai quand même un gros répertoire.
La guinguette a fermé ses volets.
Oui, oui, il y a des bruants formidables aussi. Voilà.
Caroline Roélance, oui. Vous avez travaillé entre autres au départ avec Philippe de Coufflet.
J'ai rencontré Philippe brièvement sur l'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville en 92. Donc, on était assez nombreux. On a collaboré sur cette ouverture.
Et comment votre carrière, peut-être de danseuse à l'origine, est venue vers cette forme de cabaret, de revues, de spectacles musicaux?
Alors, moi, j'ai démarré comme danseuse il y a très très longtemps, et assez vite, en fait, j'ai été amenée au théâtre musical, puisque j'ai été formée aux États-Unis et un peu en France, moitié-moitié, et en fait, j'ai été amenée à me produire dans Kiss Me Kate, qui était une comédie musicale, vraiment une adaptation Broadway d'Alain Marcel en 92. Et donc, il fallait jouer, il fallait chanter. Je ne savais pas que je pouvais le faire, mais j'avais l'impression que pour moi, c'était tout à fait naturel de le faire, mais je ne savais pas si j'en étais capable.
Oui, sans avoir appris donc.
Oui, du tout. J'avais jamais pris un cours de chant. Et puis, quant à la formule cabaret, c'est surtout venu du fameux spectacle Youpi, donc qui existe depuis 3 ans maintenant.
Youpi, c'est reparti.
Youpi, c'est reparti. Mmh. Oui, parce que encore une fois à la Nouvelle Ève. Donc, Annie parlait de la camaraderie tout à l'heure. Donc, c'est très très important
pour vous aussi.
Ah oui, oui, c'est primordial. Oui, oui. Parce qu'en fait, il s'est trouvé qu'on m'a proposé une carte blanche au 20e théâtre il y a 3 ans. Et avec mon comparse de toujours, Patrick Laviosa, qui est directeur musical et pianiste accompagnateur, je me suis dit, il n'y a aucun intérêt à ce que je fasse ça toute seule, puisque qui va venir voir Caroline Roélance au 20e théâtre? Donc du coup, j'ai appelé mes copains.
Il y avait qui?
Il y a Denis d'Arcangelo, Nicole Croisille, Denis d'Arcangelo,
Madame Raymonde.
Je commençais le spectacle seul comme un tour de chant et au fur et à mesure, les invités venaient s'incruster. On avait monté 2-3 chorés, on s'était vu la veille chez moi et c'est tout. Et on faisait un petit clin d'œil à l'époque au Piano Zinc, qui était un cabaret gay du Marais.
Qui marchait très fort dans les années 80.
Voilà, et on s'était tous rencontrés là-bas. On avait plus ou moins ce point commun. C'était tellement sympa, les gens étaient contents, c'était simple, c'était un peu improvisé. Je dois dire, un peu n'importe comment. Et puis, on nous en a commandé un deuxième, et puis il y en a eu un troisième. Et au bout du quatrième, je me suis dit, j'ai envie d'aller à la Nouvelle-Ève parce que j'adorais cet endroit. Et du coup, ce fameux spectacle Youpi, qu'on avait appelé Youpi parce que c'est parti comme ça aussi, improvisé le jour de la signature dans le bureau du directeur du théâtre. Et je me suis dit, du coup, je vais écrire vraiment cette soirée sous forme de cabaret, avec tous les codes de la revue, c'est-à-dire avec des numéros de musical, des numéros chantés, des numéros dansés, des attractions comme il y a au cabaret.
Mais je regarde à la pacherie, on n'est pas très loin du cirque, c'est un peu le cousin germain du cirque, le cabaret tel que le pratique Caroline Roélance.
Mais bien sûr, on est tout
c'est
ça dans
numéros,
les
numéros, voilà. Moi, je vais faire numéros. Une petite parenthèse.
Annie Dupéret.
C'est que ce 19e théâtre, le théâtre du 19e arrondissement, était une merveille pour ce type d'artistes qui sont pas forcément très connus et qui drainent curieusement un grand public parce qu'il y a des gens qui les aiment, qui viennent les voir, etc. J'avais écrit à notre maire de Paris quand elle avait décidé de fermer ce 19e théâtre
pour
en faire un lieu communal. En tout cas, ils ont fermé une salle de théâtre qui était presque le seul théâtre de Paris qui pouvait accueillir ce type de spectacle et qui marchait très très bien. Donc ça, je lance un petit mot à ma amie Hidalgo. Je trouvais que c'était une décision absolument catastrophique pour ces artistes-là. Je veux dire, il n'y a plus de lieu pour avoir des beaux artistes comme ça, avec des spectacles gays, qu'ils soient musicaux ou pas, ou fantaisistes, justement, et qui plaisent énormément aux gens. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de lieu.
Non.
Voilà.
On dit toujours qu'on est mal formé à ce que vous faites, finalement, Caroline Roélance, chanter, danser, jouer la comédie en France, qu'on n'est pas...
Mais si, il y en a plein.
On n'est pas mal formé. Après, c'est... Moi, ce que je trouve un tout petit peu dommage, je vais me permettre de le dire, c'est qu'en fait, avec l'apparition des télécrochets, des radiocrochets, et il y a quelque chose qui s'est développé où tous les jeunes maintenant, en fait, enfin pas tous les jeunes, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont que pour ambition de devenir une star. Je pose des gros guillemets quand même, mais qui ont envie de passer à la télé, qui ont envie de vendre du disque. Donc c'est vrai qu'il y a des professeurs, il y a des formations formidables. C'est vrai qu'on sait le faire. Il n'y a pas que les Américains, on sait très bien faire ça aussi. Après, il y a pas mal de gens maintenant qui ont envie de devenir star plus que de devenir artisan. Voilà.
Annie Dupéret, on va écouter de la musique classique parce qu'il vous arrive d'en écouter. Et vous aimez particulièrement de Purcell, Oh Solitude.
Ah oui, oui, oui.
Sweetest joys, oh solitude, my sweetest.
Purcell par Alfred Deller. Oh, que vous aimez écouter ça, Annie Dupéret.
Oui, 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 il colle des frissons, quoi. C'est beau.
Vous aviez utilisé dans un film cette musique?
Oui, j'avais écrit un scénario pour que Bernard Giraudot, à l'époque, fasse son premier film, et que nous avons fait ensemble, qui s'appelait « La face de l'ogre ». Une histoire en montagne, comme ça, sur ceux qui sont au pied de la montagne, qui attendent. Et c'était une histoire de deuil, déjà. J'avais pas compris pourquoi, à l'époque, j'étais complètement à l'aise dans ce sujet. C'est bien de pas comprendre, sinon on fait pas les choses. Donc j'avais fait ce film sur le deuil impossible, et quand la femme acceptait enfin et repartait, nous avions pris cette musique, voilà.
Monsieur le Président du Cirque Phénix, c'est déjà la fin de la première heure du Grand Atelier d'Annie Dupéret, mais je voudrais que vous nous racontiez comment vous l'avez rencontrée, notre comédienne.
Alors, je voyais il y a quelques années au Cirque d'Hiver Annie Dupéret et Bernard Giraudot au festival, et nous nous sommes croisés, et puis je me suis dit, allez, j'ose, je la voyais, j'ose, je suis allé l'aborder, est-ce que vous accepteriez de venir remettre un prix? Et ça a été spontanément, oui. Donc, ouf, vous voyez, c'était tellement simple que je me suis dit, l'année prochaine, pour le 40e anniversaire, je vais oser lui demander d'être présidente du jury. Parce que là, c'est quand même 5 jours. Le travail intense.
Elle ne sait pas encore ce qu'il attend pour le 41e.
Eh ben,
le trapèze.
Peut-être le trapèze. Et là aussi, ça a été un oui immédiatement. Et c'est merci pour son humilité, sa gentillesse, sa disponibilité. C'est vraiment une femme formidable.
Alors, si vous cherchez une présidente de jury, ben vous nous écrivez à
France Inter. Non, surtout pas, je déteste ça.
Merci Caroline Roelands.
Merci à vous, merci Annie.
On va se retrouver dans la deuxième heure de votre grand atelier, Annie Dupéret. On va continuer de parler d'amitié, de théâtre, de famille, de copains,
oui,
de troupe.
Oui, absolument.
À tout de suite.
Moi, je suis contente quand les gens me disent « Ah, vous nous faites du bien, vous avez une espèce de luminosité, tant mieux. » Je veux dire, je fais ça pour eux, en fait. Peut-être je suis chargée d'eux. Voilà, pour continuer à créer, continuer à écrire, continuer à photographier, si je m'y remets, voilà.
Je suis contente quand on me dit « vous faites du bien, je fais ça pour eux, je suis peut-être chargée d'eux ». Qu'est-ce que vous voulez dire, Annie Dupéret?
Je sais pas, ça a l'air d'être une petite mission sur Terre, en
une
tout
mission.
Cas, effectivement, d'essayer de faire un peu de lumière.
Et ce, depuis toujours?
Oui, je pense. Peut-être depuis, plus précisément, la rencontre, après que j'ai écrit « Le voile noir », tout de suite après. Je l'ai beaucoup raconté, mais quand même, je ne résiste pas à le raconter encore une fois, puisque j'ai à côté de moi Béatrice Agénin, qui a été longtemps ma camarade dans une famille formidable. Je n'arrive pas à croire que ce soit un hasard, alors que j'étais en train d'écrire d'une manière émotivement vraiment... très atteinte, les dernières pages du Voile Noir, que j'ai souhaité faire une comédie pour me tirer un peu de cette tristesse, et qu'on me dit au mois d'août, ah, tu voulais une comédie, il y en a 3, on t'en propose 3, ça s'appelle Une famille formidable, et ça commence tout de suite. Et j'ai dit, ah non, pas tout de suite, parce que je suis dans les plus dures dernières pages que j'ai promis de rendre le 15 septembre. Et là, mon agent me dit, ah bah t'as de la chance, ça commence le 16. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque quand même je rencontre Joël Santoni, qui me dit « je n'ai jamais fait quelque chose de drôle, j'ai jamais fait de comédie, mais je vais essayer, vois-tu, parce que... » Et on découvre au bout de 4 phrases qu'on est orphelin de père et de mère au même âge. J'ai un peu tendance à regarder vers le ciel, moi qui suis pas croyante, généralement, en me disant « là, les anges ont arrangé quelque chose. C'est pas possible, c'est trop bien organisé. »
Bonjour et... Béatrice Agénin.
Bonjour. Voilà.
Je salue Béatrice. Vos invités, parce que autour de vous, c'est une famille au sens très large, j'ai l'impression, dans cette deuxième heure.
Oui, oui, oui.
Présentez-nous vos invités.
Alors voilà, Béatrice a longtemps avec moi été ma meilleure amie dans Une famille formidable. C'était tout à fait spécial quand même, comme on a distillé dans cette série comme ça de la lumière, du bonheur aux gens, de l'optimisme pendant 25 ans.
Il y a un jeune homme qui joue aussi dans Une famille formidable, entre autres.
Oui, oh, il a joué un tout petit peu. Gaël, mon fils. Voilà, Gaël Giraudot.
Gaël Giraudot, votre fils.
Voilà, j'ai eu envie d'inviter Gaël parce que Dieu sait qu'on... On parle beaucoup de ma fille qui a pas mal de succès dans une série, dans des films. On parle beaucoup moins de mon fils qui a aussi choisi ce métier.
Mon fils.
Tardivement, ceci dit.
Tardivement.
Ah oui, il nous racontera son parcours. Voilà, et en face de vous?
Et en face de moi, là, il y a là une autre complice que j'ai connue aussi à l'occasion des Familles Formidables d'ailleurs. C'est Caroline Simons, ou Simons, qui est fondatrice, directrice et clown au rire médecin. Les clowns qui vont dans les hôpitaux pour faire rire les enfants qui sont souvent en état de grave maladie et qui sont tellement précieux pour amener un peu de gaieté dans ces services durs.
On va commencer en musique, je crois que vous aimez bien, vous allez nous dire pourquoi, Rodrigo León.
Ah oui, 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 j'aime beaucoup, c'est un compositeur portugais,
oui.
Rodrigo Leão.
Arrêtez de crâner. Avec votre accent portugais. Vous l'aimez pourquoi, vous savez, vous l'avez
Je ne sais pas, il me séduit beaucoup et oui. Sa musique me séduit énormément.
Notamment celle-là, Comédia de Deus.
Si.
Je l'ai bien dit.
A Comédia de Deus.
Ah, vous aimez cette musique, vous avez même joué de la batterie sur la musique.
Non, je ne joue d'aucun instrument, c'est très curieux d'ailleurs.
Gaëlle Giraudeau, elle jouait bien de la batterie, votre mère.
Très bien.
Oui, oui, tout de suite, là, oui, caché, c'est parce que je connais le numéro par cœur, c'est pour ça.
Alors on a une clown, j'allais dire encore une fois, parce qu'on a parlé des clowns et du cirque tout à l'heure avec Alain Pacherie, mais là c'est une vraie clown.
Oui.
La première fois que vous allez dans un hôpital, c'est pour qui, c'est pourquoi et c'est où et c'est quand?
Oh là 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 là. Bah, la première fois comme clown à l'hôpital, c'était mon audition aux États-Unis, à Harlem, dans un collant très collant, avec un queue de girafe, avec des yeux de girafe, avec des antennes de girafe. Et on m'a balancé vraiment dans cette soin intensive devant une petite fille de 12 ans, Graziella, qui venait de voir une greffe de cœur. Et puis elle était dans le coltard. Et on m'a dit, alors girafe, qu'est-ce que vous savez faire ? Grand blanc, je sors un petit boîte à musique, ding 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 ding, over the rainbow, pas de réaction. Ah, je vois des cils, et puis je sors ma flûte, parce que je suis flûtiste, classique. Je joue over the rainbow. Des yeux qui s'ouvrent. C'était incroyable ce moment. Et puis, j'ai mon ex-patron qui me regarde avec des yeux sévères. Qu'est-ce qu'il va encore faire, celle-là? Et j'ai chanté « Somewhere over the rainbow ». Et j'ai eu un tout petit sourire. Et je savais que j'étais partie pour 80 ans de ma vie.
Ah, vous saviez
dans ce milieu. Non, oui,
que votre vie allait changer, finalement?
Oh, mais complètement, moi je voulais être médecin, enfin. Donc, je me suis retrouvée à mon premier amour de métier, c'est-à-dire être à l'hôpital avec des gens, un peu comme Annie, on est un peu des sœurs de lumière. Je veux dire, apporter un peu de paillettes là où c'est un peu noir par moment.
Et puis vous arrivez en France et vous montez très vite l'association Le Rire Médecin.
Bah, j'ai passé 3 ans et demi avec les Américaines. J'ai compris que c'était trop psychorigide pour moi. Je voulais des gens qui pouvaient improviser. Donc, il y a plein de comédiens clowns en France, de Lecoq. Je sais pas si vous connaissez
l'école Lecoq,
c'est, ouais,
c'est génial. Sur le clown, entre autres, le geste,
voilà,
le mouvement,
donc je voulais,
le corps.
Et je voulais former des comédiens. Je voulais qu'ils aient une vraie formation sur la douleur, sur les maladies. Donc, j'ai créé quelque chose et j'ai eu la chance d'avoir eu des subventions assez rapidement qui m'a permis les premiers 3 ans être tranquille et de vraiment bien choisir des gens. J'ai dû interviewer, auditionner 50 comédiens pour en avoir 4.
Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour intégrer ces clowns du Rire Médecin?
Ben, il me faut des gens avec du talent. Il faut savoir faire rire, être bon de l'absurde, de décalage, mais en même temps, il faut grand cœur, il faut des gens empathiques, mais qui vont garder la distance. À côté de ça, il faut des gens curieux. Je veux des gens qui vont vraiment évoluer sur des années.
Moi, demandez d'intervenir dans un milieu très précis, très spécifique, qui est l'hôpital. Est-ce qu'il faut être formé un peu aux soins, au rapport aux malades?
Pas aux soins, mais il faut comprendre les soins. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est un osteosarcome. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est la mucoviscidose. Et il faut comprendre comment prendre la bonne distance sur un enfant en fin de vie.
Annie Dupéré, vous avez vu Caroline opérer, si je puis dire, en clown dans un hôpital?
Non, parce que j'ai jamais eu le courage. Ma fille l'a eu dernièrement, puisqu'elle a fait un très beau, très très beau court-métrage. Mes héros. Elle a fait ça pour Arte. Effectivement, elle a suivi deux clowns pendant leur travail, là. Et c'est tout à fait magnifique.
Tu peux rentrer?
Oui.
Attends.
Oui.
Viens ici.
Et il est gentil.
Est-ce que t'as dit bonjour? T'as pas dit bonjour? Ah, t'as pas vu?
Allez, vas-y.
Oh, c'était une blague.
C'était une blague. On va t'essuyer.
Ouais. Ça chatouille. C'est froid.
Quelle est la vertu du rire pour un enfant? Est-ce qu'on soigne mieux un enfant heureux, par exemple?
C'est évident quand l'enfant sait qu'il reste un enfant et pas un objet médical ou l'objet de la tristesse de ses parents, qui peut déconner un peu, qu'on puisse faire du confetti avec des papiers toilettes, une tempête de neige en plein été avec des clowns, c'est qu'il prend plus d'assurance, il est plus dans la complicité peut-être avec les soignants. C'est pas pour ça qu'il va guérir, mais il va être moins triste, moins anxieux et ses parents vont aussi le voir comme un enfant comme il est.
Et lui aussi. Il va voir ses parents rire. Ça, c'est très important. Pas seulement des parents affligés qui sont dans le souci,
on dédramatise,
mais qui peuvent se permettre de rire.
Ouais. Mon premier objectif, c'est de rentrer parfaitement, comme un la bémol ou un la dièse dans la chanson, parfaitement en synchronisation du besoin de l'enfant à ce moment-là. S'il a besoin du silence, eh ben, je fais le con en silence. S'il a besoin du brouhaha, eh ben, je monte sur la table et je fais la danse des 7 voix.
Donc vous êtes patronne, mais vous êtes aussi toujours clown.
Ben, jusqu'à la fin de ma vie. Non, mais bien sûr, évidemment, on est clown.
Josette Giraffe, c'est ça?
Madame Giraffe, oui.
Madame Giraffe.
D'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontrée dans Les Familles Formidables, Joëlle Santoni avait entendu parler, elle venait presque de créer l'association. Tu as un personnage de médecin dans un hôpital, tu vas amener les clowns à l'hôpital. Et donc, elle m'avait prêté ses oreilles de girafe. Tu fais combien de plus de centimètres que moi?
1,84 et demi.
1,84 et demi, j'adore cette femme. Je lève les yeux pour la regarder.
Vous
c'est
qui êtes
délicieux.
Déjà assez grande. Oui, voilà. C'est rare dans votre vie. Il y a eu des partenaires assez clowns autour de vous dans votre existence et des amis clowns. Je pense à Maurice Chevitte, qui a été un des grands seconds rôles du théâtre et du cinéma et de la télé, qui vous est cher, hein, cet homme-là.
Il m'est très cher. Et c'est vrai que Maurice était très drôle, mais dans la pièce de Dario Fo qu'on avait, il avait un grand numéro qu'on appelle le Gromelot, qui avait été inventé d'ailleurs par Dario Fo. Cette manière de raconter une histoire avec simplement des onomatopées.
Oh, vous voulez l'écouter quand il fait ça?
Oui.
Oh,
Là, il a rien à envier à De Funès, là.
Oui, il racontait une bagarre avec les Indiens et touf, 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 c'était les flèches qui passaient.
Et ça durait,
Maurice détestait faire ça.
Ah bon?
Ah oui, il n'aimait pas parce qu'il trouvait que ça faisait numéro, que ça faisait, là, il le faisait admirablement bien. Les gens étaient fous de joie et il avait un scrupule à faire ça. Il trouvait ça quelque part trop facile. Ce qui est un comble.
Chevitte, qui a vécu une tragédie, j'allais dire lui aussi, même si elle n'a rien à voir avec la vôtre. Enfin, il a perdu ses parents dans les camps.
Et
la photo est aussi un trait d'union entre vous. Vous l'avez raconté, cette anecdote, mais c'est très beau.
Dans mon livre, là, les photos d'Annie, c'est vrai que Maurice, je l'avais photographié, je lui avais fait des portraits pour l'annuaire du spectacle, comme on dit.
Oui, parce que vous avez fait beaucoup de photos dans les années 70.
Je l'avais photographié en scène, en répétition, j'allais photographier les camarades. Et c'est vrai qu'un jour, sachant que je développais, j'avais fait un laboratoire chez moi, je ne savais pas trop pourquoi il m'avait dit « Est-ce que je pourrais venir chez toi un jour pour que tu me développes un négatif ?» Il m'avait pas dit d'abord ce que c'était. Et puis un soir, il est venu et il m'a apporté, je suis émue en parlant, le seul négatif qui restait de ses parents. Et je lui ai développé la seule photo qui restait de ses parents. Et donc ça a été un moment, j'en pleure encore, parce que c'était extraordinaire.
Il s'est mis à pleurer.
Oui, il s'est mis à pleurer. Moi, je pleurais pas encore. J'avais pas encore fait le point sur la mort de mes parents. Donc moi, j'étais restée la technicienne qui a développé ça. Et je le regardais pleurer. Et c'était pas encore l'heure pour moi.
Ce que je trouve magnifique aussi, et vous l'écrivez, c'est que Chevitte ne savait pas pleurer au cinéma, à la télé,
au théâtre,
comme vous savez sans doute le faire, Béatrice Agenin, et il était complexé.
Il était complexé, ça l'ennuyait beaucoup, parce qu'il dit, Dieu sait que j'ai pleuré dans la vie, et qu'il pleurait beaucoup comme ça, il dit, dès qu'il faut pleurer en scène, j'ai un stop, je ne peux pas. Si c'est pas vrai, les larmes ne viennent pas.
Thank you.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Comme vous le savez, mon travail porte essentiellement sur le théâtre contemporain. Nous voudrions qu'il soit le reflet le plus immédiat de la vie des hommes. Un miroir tendu à notre époque. Et cela par les moyens spécifiques du théâtre. Le texte, d'abord. Les moyens du théâtre, donc les sentiments, les sensations, l'intuition, le brassage d'idées, la réflexion, le rire et les larmes, et pourquoi pas le plaisir et le divertissement. Je suis particulièrement heureux parce que ce soir, ce qui se déroule ici semble refléter le théâtre dans sa diversité, dans sa pluralité. En effet, je crois depuis toujours que le théâtre, ce n'est pas ceci ou cela, c'est ceci et cela.
Gaël Giraudeau, est-ce que vous avez reconnu cette voix ?
Il faut bien avouer que je n'avais pas reconnu. Ouais. Je vais être honnête.
Vous êtes
j'aurais
honnête.
Pu dire si, c'est Laurent Terzièff, bien sûr.
Ben voilà, c'est Terzièff.
Mais
c'est
je ne l'avais pas reconnu immédiatement.
Après tout, Annie Dupéré, la mémoire d'un acteur ou d'un artiste part très vite. Hein.
Oui, oui, mais je ne crois pas que tu aies vu Terzièff jouer.
Non.
Non, c'est ça le truc.
Non.
Alors que vous l'avez même photographié jeune homme, Terzièff, Annie Dupéré.
Oui, oui, je l'ai photographié parce que nous avions fait un film ensemble. François Villergans était passionné aussi par le film. Et par le montage, notamment. Et il m'avait demandé si je voulais faire un film, il voulait que nous faisions un film sur un thème un peu en improvisation. Et je lui ai dit, tu sais, j'aime pas, moi, l'improvisation, c'est pas tellement mon truc. Et il m'avait dit, avec Laurent Terzièff. J'avais fait, ah, là. Peut-être on va tenter l'aventure. Et en fait, on a fait avec François Villergans et Laurent Terzièff un film qui s'appelait Maladie mortelle, qui restait assez confidentiel puisqu'il a été dans des festivals comme ça, un film d'avant-garde, comme on dit. Et j'ai donc connu Laurent à cette époque-là. Et je le photographiais. C'était l'époque où je me baladais tout le temps avec mon appareil. Et il savait pas que je le photographiais quand j'ai fait cette photo.
Alors, il y a une photo, là, dans votre livre,
avec
les photos
Villergans,
d'Annie.
Avec voilà.
Avec Villergans, ils ont l'air de penser. Et alors, Terzièff a adoré cette photo. Il vous a dit un jour, c'est là que je suis beau. C'est sur cette photo-là
oui,
que je suis beau. Je me trouve beau.
C'était effectivement au Molière, qui était 3 mois avant son décès, où il m'a réclamé cette photo. Parce qu'il m'a dit, j'aimerais la revoir parce que je m'étais jamais trouvé si beau de ma vie. Et j'ai pas eu le temps, en fait, de ressortir les négatives, de rechercher. J'ai appris qu'il était parti. Elle va faire la couverture du livre de Catherine Terzièff, qui a écrit un bouquin sur les Terzièff, qui sort là à l'Armatan.
Bravo.
Et je suis très contente d'avoir cette photo de Laurent, puisqu'il l'aimait, en couverture du livre.
Annie voilà. Dupéré, Béatrice Agenin. Le théâtre, ce n'est pas ceci ou cela, mais ceci et cela. C'est ce que disait ce soir-là au Molière Laurent Terzièff. La formule est restée. J'ai l'impression qu'il a fait du bien finalement aux comédiens.
Cette parole, elle est magnifique, elle est extraordinaire. C'est ça qui représente vraiment le théâtre. C'est ce brassage d'idées, c'est ce dont il parle. Et aussi l'investissement, la sacralisation.
Et puis l'importance d'être libre, d'aller dans le subventionné et aussi dans le privé.
Oui, alors ça, bien c'est sûr. Pas fait. Hein.
Votre carrière prouve que c'est fait.
Non, ça a été fait, mais je pense que c'est de plus en plus difficile.
Béatrice Agenin, oui, 10 ans à la Comédie Française.
Oui, et 10 ans avec Belmondo.
10 ans avec Belmondo.
Oui, et puis après 10 ans un peu toute seule.
Vous l'avez payé de partir dans le privé? Au sens où vous n'avez pas pu de temps en temps revenir dans le public?
Ah oui, bien sûr.
C'est
ah,
vrai?
Oui, oui, je suis cataloguée privée maintenant.
Et donc
terminé.
Impossible d'être dans un théâtre subventionné?
Impossible.
Moi qui ai fait le théâtre de la
c'est
ville,
incroyable.
Jean-Louis Barrault et tout ça, à partir du jour où j'ai mis les pieds au théâtre du Palais Royal pour jouer la fille sur la banquette arrière, je n'ai plus jamais eu une proposition du subventionné.
Alors que c'est possible dans
plus
l'autre
jamais.
Sens. Le privé peut inviter des gens du subventionné. Bon, tout ça, c'est une histoire économique. Mais je veux dire, non, c'est une chapelle qui est très violente.
Mais c'est extrêmement triste.
Ah oui.
Oui, oui, oui. C'est comme si tout à coup, on
n'est pas
avait
digne.
Trahi.
C'est culturellement
Béatrice
incorrect.
Agenin. Culturellement c'est... incorrect.
Oui.
Je sens de la souffrance chez vous, Béatrice Agenin, sur ce plan-là.
Je vais dire que c'est de la colère, d'abord. Parce que le subventionné, c'est nous tous qui le payons. Donc on devrait y avoir accès... absolument, pour toujours.
Mais vous allez voir des metteurs en scène, des patrons de théâtre subventionnés
non,
en disant...
Ça ne sert à rien, mais je vais voir des spectacles qui ne me plaisent pas toujours. Alors ça m'exaspère.
Ça vous venge. Alors il y a un jeune comédien qui écarquille les yeux. Vous êtes surpris?
Ah ouais. Moi, je suis atterré. Alors, moi, je suis un jeune comédien, donc je n'ai pas vécu forcément toute cette histoire. Et Je suis venu au théâtre pour des raisons simples, donner un sens à ma vie, vouloir transmettre des émotions. Et je suis atterré de voir que des gens qui créent pour les autres, qui veulent faire passer des messages, soient capables de dissocier les choses pour des raisons économiques, ou pour des raisons de groupe. C'est un truc qui me, dans l'art, qui me dépasse en fait. C'est-à-dire, je comprends pas.
Moi, je pensais que ça avait davantage changé qu'à, qu'à cette époque de cette archive aujourd'hui de Terzieff, hein, puisque des jeunes patrons de salles comme Jean-Robert Charrier au théâtre de la Porte Saint-Martin fait en sorte qu'il y ait des spectacles du public qui viennent dans son théâtre privé, même s'il fait des créations. La Scala qui a été créée boulevard de Strasbourg récemment permet à des spectacles du public de venir dans une salle privée, etc. Il me semblait qu'il y avait un mouvement où on arrêterait ces barrières.
Espérons.
Parfait. Vous me trouvez candide.
Oui, voilà. Mais ce sont des batailles. Ils sont perdus parce qu'elles sont politiques. C'est comme ça. C'est étrange, mais il y a une vraie scission. Bon, peut-être qu'il y en a toujours eu, au fond.
Ce qui ne vous empêche pas de travailler depuis toujours, hein, Béatrice Agenin. Théâtre, oui. D'abord, on a dit comédie française pendant 10 ans. Plusieurs pièces avec Belmondo. Et puis, vous avez aussi dirigé notre jeune Gaël Giraudeau, par exemple.
Absolument, hein, oui.
On vous a posé 1000 fois la question, mais pourquoi vous avez quitté la comédie française, Béatrice Agenin?
Oh, ça ne me convenait pas vraiment. J'ai fait des choses merveilleuses. J'ai appris énormément. Et je recite toujours cet extraordinaire directeur d'acteur, homme de génie.
Jean-Paul Roussillon.
Absolument. Mais la structure même de la comédie française ne me convenait pas, j'avais besoin de liberté.
Est-ce que vous avez envie d'entrer à la comédie française, Gaël?
Je ne sais pas trop. Je
Moi,
sais
je
pas.
Pense que ça lui irait bien. Pour les rôles, pour les textes, parce que je vais parler devant lui, je crois que Gaël, de ce que j'ai vu enfin des jeunes acteurs, et ce n'est pas du tout parce que c'est mon fils, on disait à l'époque un emploi, mais maintenant on parle beaucoup moins d'emploi. Mais il a quand même un emploi assez rare. Les grands premiers rôles romantiques. Il a comme ça
Alors
quelque chose...
Alors vous le voyez
chose...
dans quoi? Dans Ruy Blas?
Voilà. C'est un Ruy Blas. Il n'y en a pas beaucoup des Ruy Blas.
Maintenant, il faut convaincre un metteur en scène.
Qui avoir du panache et du souffle.
Alors dites-nous, voilà. Bon appétit, messieurs.
Voilà. Bon appétit, messieurs.
Très bien. Je précise effectivement que vous êtes venu tard, contrairement à Sarah Giraudeau, à l'art dramatique. Vous avez commencé par des études d'économie.
C'est ça.
Vous avez créé des jeux vidéo.
Ouais.
Et puis, qu'est-ce qui vous amène en scène ou devant une caméra un jour?
En fait, c'est très simple. Voilà, vous avez résumé ma vie en 3 étapes pour l'instant. J'espère qu'il y en aura plus, mais enfin bon, voilà. J'ai basculé dans l'art, parce qu'il faut quand même dire que le jeu vidéo est un média qui me passionne, mais qui est un art à bien des égards. J'avais envie de créer, d'imaginer des choses, d'inventer des histoires, de raconter des émotions. Et c'est un petit article de Journal Déchiré où j'ai découvert qu'on pouvait faire du jeu vidéo sans avoir fait d'informatique et sans avoir fait de dessin, quoi. On pouvait simplement être un créateur. Comme aujourd'hui, on peut être un auteur. On peut simplement écrire et par des mots donner envie aux gens de réaliser techniquement des choses. Alors, si c'est génial, je vais faire ça, moi. Et j'ai tout plaqué. Je suis arrivé un peu en retard au concours d'une école qui s'appelle Sup Info Game. J'ai passé ça et puis je me suis lancé là-dedans.
Combien de temps?
Corps et âme. J'ai fait 2 ans d'études et ensuite j'ai fait 6 ans. 6 ans dans le jeu vidéo. Et j'ai fait un jour avec des complications de budget, d'équipe, une première épreuve de chef de projet où j'ai 30 personnes qui se passe extrêmement mal. J'en dors plus. Je peux pas voir mon père qui lui est à Paris alors que je travaille à Lyon. Il disparaît doucement. J'ai pas de temps. Tout se mélange dans ma tête. Burnout. Et burn-out parce qu'à minuit en plus à Lyon, un radiateur pète dans mon appartement, et là je me dis, trou noir. Je me réveille, des plaques plein la gueule, devant le miroir, je me dis, faut changer quelque chose. Alors je fallait pas changer le fait d'avoir envie de créer, mais il y avait un truc qui me correspondait plus. J'avais envie d'être instantané moi dans mon art, j'avais envie de proposer tout de suite quelque chose, de distiller quelque chose. Et le théâtre m'a sauté aux yeux. Le naturel revient peut-être au galop doucement, mais je me suis dit, j'ai jamais essayé, je me suis refusé de l'essayer, probablement pour des raisons que beaucoup peuvent comprendre. Hein,
donc vous, à ce moment-là, après ce trou noir, si je puis dire, vous appelez maman Annie, et elle vous dit, ne fais pas ça à mon fils, ou vas-y?
Non, pas du tout.
Avec un respect immense.
Non, c'est vrai que Bernard a disparu, donc je crois que c'est à peu près 4 jours après, 5 jours après, que mon fils nous a quasiment convoqués, même Sarah et moi, ma fille et moi, pour nous dire, voilà, je vais vous dire quelque chose, je quitte mon métier et je veux devenir comédien. Alors, je lui ai dit, c'est vrai que je savais depuis longtemps, je t'observe, je regarde que tu es dans l'évitement des terrains de ton père d'une manière très très subtile. Mais là,
quand même, 5 jours après nous annoncer que tu veux tout à coup faire le même métier, nous sommes au bord du gag.
j'en ai un peu souffert derrière le jeu vidéo. Ma mère comme mon père n'y comprenaient absolument rien.
Oui, donc hein, il était libre.
Quand je leur annonçais fièrement que j'avais créé quelque chose, ils me regardaient avec un sourire un peu « Ouais, c'est bien. » Bon, mais ils comprenaient rien. Ça me permettait aussi d'éviter, c'est vrai.
Oui, t'étais libre. T'étais ailleurs.
Est-ce que vous pensez qu'avoir le père que vous avez eu, le grand Bernard Giraudot, vous a un petit peu empêché d'être acteur plus tôt? Oui, Diani.
Je sais pas. En fait, pour être très honnête, je pense que c'est d'avoir eu un père comme ça. Franchement, j'ai eu un rôle au théâtre il y a pas longtemps, Tellement Malas, qui était très proche quand même de cette problématique-là, d'avoir un père qui peut écraser et comment trouver sa propre identité. Je sais pas si c'est ça ou si c'est le manque de confiance en soi que peut donner cette image. C'était pas forcément de me comparer sur un même terrain artistique. C'était peut-être plus de est-ce que j'ai la force d'exister à côté? Et je pense que si je me dis, j'avais commencé le théâtre à 20 ans, moi j'admire les gens qui commencent le théâtre comme ça, j'admire ma sœur à ce niveau-là, d'avoir toujours voulu faire ça, parce que je n'avais pas clairement à cet âge la confiance en moi. Et la confiance en soi, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Dites-vous que vous étiez un peu fragile.
Fragile, fébrile.
C'est terrible le poids des parents de temps en temps quand même, c'est malgré soi, avec les meilleures intentions du monde. C'est pour ça que j'ai beaucoup dit que effectivement, moi n'ayant pas eu de mère, comme exemple, quand on fait des enfants, tout à coup, on est empli de encore de plus de doutes que les autres. C'est-à-dire, est-ce que je vais y arriver? Comment font les autres? Donc on regarde les autres, et c'est vrai que très vite, je m'étais dit, mais que les mères sont lourdes. Ah là là, ou alors hyper protectrice, ou alors dirigeant les enfants vers ce qu'elles n'avaient pas pu faire elles. Moi, je voyais ça beaucoup au cours de danse, par exemple. Les mères qui arrivaient, qui poussaient les petites filles parce qu'elles auraient aimé être danseuses. Enfin, je trouvais les mères lourdes en général, voilà. Et donc, je disais toujours, je vais essayer d'être la mère la plus légère possible. C'est-à-dire que, avant tout, les regarder, ce qu'en fait ma tante qui m'a élevée avait fait avec moi. Toutes les cartes en main. T'as envie de faire ça? Tiens, voilà, t'as envie de lire, il y a les livres. T'as envie de dessiner, tiens, il y a la peinture. Tiens, t'as envie de ça, tu prends des cours de ça. Voilà, mais toutes les cartes en main, mais entendons-nous, c'est toi qui joues. Et tu peux très bien gâcher le jeu.
Vous avez été élevé comme ça par Annie Dupéré?
Complètement, parce que moi, quand j'ai décidé de partir dans un média qu'elle ne connaissait pas, comme dans d'autres familles, je veux devenir comédien, c'est... Ça peut sonner un peu difficile pour certains parents qui font de la finance, par exemple, disant « qu'est-ce que tu vas faire, mon fils ?» Là, c'est un peu pareil, c'est « qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire ?» quoi. Mais il y a eu, comme tu dis, maman, vraiment ce truc de genre « bah tu veux le faire ? Ok, nous on va te donner les outils pour... »
Vous avez pris des cours ?
J'ai pris des cours et je me suis dit très très vite, je suis à ma place.
Et vous avez travaillé assez vite. On va se retrouver tous ensemble, si vous voulez bien. Je voudrais qu'on écoute quelqu'un que vous avez fréquenté, parce que comme vous aimez les copains, la bande, la troupe, il y en avait une autour de Bernard Giraudot et vous, Annie Dupéré, c'était la bande avec Serge Lama, la bande avec Marie-Paul Bell.
Ah, la Marie-Paul.
Et elle a chanté Barbara, que vous aimez aussi, Marie-Paul Bell. Ouais. Alors on l'écoute quand elle chante « Toi ».
Tu me fais des nuits et des jours, et des jours et des nuits d'amour. Toi, je le sais, tu pourrais même m'ensoleiller sous la pluie même. Avant toi, d'autres sont venus que je n'ai jamais reconnus. Pour toi, je ne suis pas la même. Toi, ce n'est pas pareil. Je t'aime, tu me fais des nuits et des jours et des nuits d'amour. Tu me fais la mer et les dunes. Et des plages au clair de la lune. Avec ta gueule de Jésus, tu es venu, oh bienvenu. Et tu m'as griffé en douceur, là juste à la place du cœur, à la place du cœur. Tu me fais la nuit, le jour, et le jour et la nuit l'amour. Et dans tes bras je fais naufrage, sans même quitter le rivage. J'ai beau connaître mon affaire, du boy scout jusqu'au légionnaire. Devant toi, j'étais vraiment nue, le jour où tu m'as dévêtue. Tu m'as faite au premier matin, timide et vierge, vierge et catin. Pour toi, je ne suis plus la même, toi, ce n'est pas pareil. Je t'aime, la 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 la. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
René m'a dit qu'il allait y avoir des élections municipales anticipées.
Ah oui, mais ça c'est un pétard mouillé, Robert sera réélu.
C'est pas dit. J'ai décidé de me présenter.
Contre Robert ?
Peu importe, Robert.
Il est temps pour moi de jouer un rôle dans la société. J'en ai vraiment besoin.
Bah, tu te sens prête, ça c'est bien beau, mais encore faudrait-il que le village, lui, soit prêt à t'accepter.
Bah, ça, ce sont les électeurs qui décideront.
Je pense que c'est une décision trop hâtive.
Catherine, avec toi à mes côtés, mais nous pouvons faire de grandes choses à Noyères-sur-Serein.
Ah, parce que tu me demandes en plus de trahir Robert.
Catherine, je suis ta meilleure amie.
Mais enfin, je suis l'adjointe de Robert. Je peux pas, même pour faire plaisir à ma meilleure amie, retourner ma veste comme ça. Et puis c'est un très très bon maire.
Robert est un plouc. Moi, j'offrirais à Noyères une vision de plus grande envergure.
Béatrice Agenin et Annie Dupéré dans Une famille formidable. Vous écoutez, vous vous marrez alors.
Oui. C'est incroyable.
C'est des bons souvenirs.
Ouais. Reine dans Une famille formidable. Mmh. Vous avez disparu parce que vous mourrez dans le téléfilm.
Oui, je suis morte.
Oui, j'ai détesté.
J'imagine.
Non, mais Joël avait depuis longtemps, je le savais parce qu'on en parlait, envie de traiter de l'euthanasie. De traiter ce sujet qui est important de l'aide à mourir quand la personne l'a décidé, quand on sait que c'est irrémédiable, quoi. Qu'on puisse le faire, ça lui semblait une cause à défendre. Il me dit, je ne vois pas de meilleure situation que toi aidant à mourir ta meilleure amie. J'ai dit, je déteste ça, je vais détester ça.
Et on tourne ça comment alors, Béatrice?
Douloureusement, hein. Oui.
Oui, c'était pas extrêmement drôle, mais enfin, on s'entend si bien, on est tellement, vraiment unis. Que bon, c'était pas facile à faire, je dirais, émotionnellement dans les scènes, mais ça nous empêchait pas de boire des coups
de
portugais en sortant.
Non, mais c'est vrai qu'il avait raison. Dans ces familles, on a traité beaucoup de sujets comme ça.
Beaucoup de sujets de société.
Du deuil, de sujets de société. Voilà, on a été dans les premiers à traiter l'homosexualité, l'acceptation de l'homosexualité, la drogue. Il y avait les secrets de famille, le mariage, la mort du père, etc. Et jusqu'à ce sujet-là, qui était un des derniers sujets traités lui-même par Joël, parce que c'était un des derniers films qu'il a mis en scène lui-même.
Oui, il a disparu il y a quelques mois, hein,
voilà,
Joël Santoni.
Voilà, il y a quelques mois. Voilà.
Vous avez commencé cette série en quelle année?
92, sorti exactement en même temps que Le Voile Noir.
À l'époque, on tournait pas beaucoup de séries en France.
Non.
Et c'était peut-être même pas très bien vu quand on allait jouer dans une série et qu'on quittait le théâtre. Alors qu'aujourd'hui, les comédiens et comédiennes qui ont l'âge de votre fils, Gaël. Tout le monde rêve de jouer dans une série.
Oui, ça a pris. Et j'aime bien les séries, moi. J'aime beaucoup ça parce que c'est, on a le temps. Il y a des scènes de 20 minutes. Où on a le temps de voir les acteurs, je veux dire, où les personnages peuvent tout à coup, sur 6 épisodes ou une dizaine d'épisodes, avoir un véritable parcours.
Comme au cinéma?
Mais oui, c'est très curieux parce que la série est revenue quelque part sur le temps qu'on prend et sur l'approfondissement des personnages au cinéma de papa. Certaines d'entre elles, du moins.
Béatrice Agenin, vous aimeriez?
Oui, bien sûr. Moi, je suis plutôt. Enfin, on me choisit seulement pour des rôles secondaires, mais il faut bien reconnaître quand même que c'est la télévision qui aide les acteurs à survivre, c'est pas le théâtre.
Qu'est-ce que vous aimeriez jouer à la télé?
Des folles. Une folle, je peux pas les jouer toutes.
Quel genre de folle vous aimeriez jouer?
Oh, je sais pas, faut qu'elle soit quand même aérienne, faut qu'elle soit.
La folle de Chaillot.
Par exemple, mais comme jouée
par
Annie l'a joué.
Et vous, vous deviez jouer dans une série, là, aujourd'hui, votre rêve, Gaël Giraudeau?
Ben moi, c'est marrant parce que j'ai quand même tourné et joué pas mal de psychopathes, quoi. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas forcément la gueule, quoi. Mais je sais pas, je dois dégager un truc un peu fou aussi, du coup.
Oui, c'est ça, c'est son côté un peu allumé comme ça.
Jeune premier tourmenté.
Béatrice m'a quand même dit, j'aimerais que tu joues un tueur en série. Quoi.
Oui, c'est vrai.
Pourquoi?
Vous l'avez joué d'ailleurs.
Oui. Je l'ai joué.
C'était à Avignon il y a quelques années.
Oui. Oui.
Mais ils ont des points communs, ces deux-là, la Béatrice. Et
cette forme de possibilité d'être fou dans son art.
Oui. D'aller dans les noirceurs.
Passions, comme ça.
Des passions. C'est très intéressant de jouer les monstres, hein, de toute façon.
Oui. Bah, regarde,
moi, je rêve de monter Macbeth, ça je le clame, je le dis, parce que Macbeth, c'est quelqu'un qui tue, mais, contrairement à dans la vie, qui tout de suite, immédiatement culpabilise et a peur de lui-même. Je lance l'appel aux offres.
Comment êtes-vous devenue amie et qu'est-ce que c'est que votre amitié, Annie Dupéré, Béatrice Agenin?
Oh, Béatrice, je crois qu'elle avait repris un rôle, c'est pas toi qui l'as créé, hein, avec Bernard. D'ailleurs, on a joué avec Bernard au théâtre, La répétition ou l'amour puni.
Moi, je faisais la comtesse. Tu l'as créée, c'est ça, voilà. Nous l'avons créée ensemble avec Bernard et Arditi. C'était une des premières mises en scène par Murat au théâtre Édouard VII, hein, on était à l'époque.
Oui, mais tu étais assez inaccessible à cette époque. Et c'est quand j'ai lu Le Voile Noir, je l'ai lu à haute voix, à mon mari. J'ai été absolument, totalement bouleversée. Et là, je t'ai écrit une lettre. Et téléphoné.
Voilà. Et puis après, nous avons eu dans Les Familles Formidables un rôle qui était tenu par Catherine Spack, qui n'a pas pu le faire. Et il y avait ce personnage de femme un peu élégante, tout ça. Et je lui ai dit, Béatrice Agenais, il m'a dit, oh, j'adore. Bon, il l'avait vu au Français, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, et Béatrice a déboulé dans la série à ce moment-là.
Caroline Simon, ça ne vous donne pas envie de jouer? Tout ce que vous entendez là, on ne parle que du plaisir de jouer.
Non, mais moi, je ne suis pas quelqu'un de la scène. Jouer une secrétaire déglinguée dans une série, why not?
Vous aussi, vous voulez jouer une folle?
Non, mais clown déborde, quoi. Il transgresse. On peut faire tout ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la politesse de la société. On peut dire ce qu'on n'a pas le droit de dire. Ça qui est génial. Il y a une liberté incroyable. Mais ma carrière, avant d'être, on va dire, clown à l'hôpital, j'étais dans la rue. J'étais aussi chanteuse de cabaret, mais j'étais dans la rue pendant 15 ans dans un personnage qui ne parlait pas, d'ailleurs. Même pas de gros mollo.
Faisiez du mime?
On va pas dire du mime, j'aime pas ce mot comme ça parce que c'est réducteur. J'avais un personnage, une libellule, Ratapus, ça s'appelait, avec le Palais des Merveilles. Je faisais la manche, c'est très bien pour la recherche de fond d'ailleurs. Ça me sert beaucoup de pouvoir regarder les gens dans les yeux et dire « Devenez donateur, est-ce que tu veux être ma marraine ?» Enfin, j'ai dit une espèce de franchise parce que j'ai appris ça dans la rue avec les enfants, des vieux, des snobs, des gens simples, des camionneurs, des maraîchers. Enfin, moi j'aime les gens.
Alors que... Quand on a tourné ensemble dans Les Familles Formidables, donc qu'elle m'a prêté ses oreilles de girafe, que j'ai censé, et que les deux clowns, c'était avec Chips.
Jean-Philippe Bouzeau, qui est dans le film de Sarah.
Qui est dans le film de Sarah.
Ah ben voilà.
Ils étaient là sur le tournage. J'ai vu la grande différence qu'il y avait entre les clowns et les acteurs.
C'est quoi?
Eh bien, c'est que à couper, comme moteur, on joue. Couper, nous, on arrête. Eux, ils n'arrêtent pas.
Le clown, ça vous a intéressé un jour, Béatrice Agenin?
Ah, je suis assez fascinée, hein, d'abord comme enfant, évidemment, mais il y a une partie qui appelle au plaisir, à la vie, au rêve ou à la poésie. Et ça oui, ça m'aurait plu, mais bon, j'adore les textes. Alors évidemment, ça m'a entraînée vers les grands classiques d'abord.
Mais votre fils, Annie Dupéré, joue des grands classiques et pas encore des grands comiques, si je puis dire. Vous avez joué là avec Nathalie Dessay et Macha Merrill un texte de Zweig. Mm. Vous êtes en train de préparer pour Le Cadeau à Orléans La vie est un songe de Calderon,
oui.
Avec des acteurs qui ne sont pas forcément des grands rôles comiques. Je pense à Gérard de Sarthe.
Non, c'est pas un grand comique.
Non, moi, je lui ai donné un challenge. Gaël, s'il te plaît, donne un fou rire à De Sarthe. Là, j'aurai une réelle considération pour toi.
J'y travaille.
Est-ce que vous avez envie d'aborder la comédie comme vos parents l'ont fait régulièrement?
Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que ce pourquoi je me suis destiné à faire du théâtre, c'est aussi pour apporter quelque chose aux gens. Maman t'en parlait tout à l'heure, de cette espèce de générosité, de cette aura de lumière qu'on a envie, peut-être égoïstement d'abord, de transmettre aux gens, mais qui ensuite est tellement généreux qu'on y prend un plaisir. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime dans l'art vivant, c'est que c'est un art qui est instantané. On transmet directement, de manière charnelle, on l'a dit aussi, des émotions, des sensations à travers du verbe, du texte, des mots. Quand je crée quelque chose, ou que je participe à un projet, j'ai envie que les gens viennent, puissent se divertir, pleurer, rire, mais repartent avec un petit quelque chose.
Il peut être très drôle.
Il est incroyablement drôle.
Et ça, le métier ne l'a pas encore découvert.
Moi, Agenin, pourquoi vous employez de temps en temps sur scène Gaël Giraudeau?
D'abord, Gaël m'a véritablement séduite un jour où il était dans ce joli petit festival
de mise en capsule.
Mise en capsule, ouais. Qui permet aux auteurs de présenter un premier travail. C'est extrêmement bénéfique, créé par, aidez-moi, Salomé Lelouch.
Hein. Ouais.
Et ensuite, alors vraiment, il m'a totalement séduite. Et à partir de là, je me suis dit, je cherche ce serial killer. Il peut jouer ce serial killer. J'ai pas du tout été déçue, au contraire, j'ai des rêves avec lui, précisément sur Musset, mais bon, après il faudrait avoir l'argent d'abord.
Non, mais il faut le diriger dans Feydeau.
C'est-à-dire que j'ai été surprise parce qu'il nous a fait rire, mais tous, pendant les répétitions. il jouait très très bien le serial killer, mais en dehors de ça, il a de l'invention, mais il est absolument fou, quoi.
Vous avez bien fait de venir, jeune homme.
Oui. Je rougeois.
On va écouter un peu de musique, c'est le générique d'Une famille formidable. Oh, Turk bah, Moro, La Grima Blue.
Oui.
La mia donna, lacrima blu, alla follia, amore blu, un'diata rossa, sacra famiglia, il giando blu, la fiesta blu, lacrima blu, grazie Fellini, lacrima blu, capofamiglia, lacrima blu, laggiù la sposa, eterna mamma, va sempre più bacino blu, lacrima blu. Oh mamma, marriage is hell, Caterina. I want no more, Caterina, no more. Enough, I have enough. Too much, it's too much for me. Lacrima blu, lascia su grida, piuttosto blu, notte di gioia, de su preghiera, stringi al blu, di giorni blu, lacrima blu, la mia donna, lacrima blu, innamorata, bacina blu, finché c'è vita, c'è meraviglia. La casa blu, lacrima blu, lacrima blu. Caterina, you drive me crazy, Caterina. Accidente, Caterina. Lascia cuore, Caterina. Caterina, Caterina, ti amo.
Eh bien, il est l'heure de remercier vos invités et de vous dire un grand merci, Annie Dupéret, d'avoir été présente dans ce grand atelier. Vous devez partir pour Bruxelles?
Oui. J'expose 50 photos de ce livre-là, les photos d'Annie. Les gens, je crois, aiment beaucoup redécouvrir comme ça des photos argentiques, noir et blanc. Et je fais cette exposition à Bruxelles. Je l'annonce à la librairie-galerie, chapitre 12. Voilà.
Béatrice Agenard, on peut voir un tableau que vous avez peint au Grand Palais à Paris?
Absolument. Oui, rien que ça. Un grand et un petit. Mais enfin, on est 3000 exposants, on ne va pas regarder que mon tableau.
Mais si.
Bon, d'accord.
Et notre rire médecin, qu'est-ce qu'on peut annoncer, Caroline, vous concernant?
Aujourd'hui, il y a 97 comédiens professionnels avec un nez rouge qui fait rire des milliers d'enfants qui sont cloués au lit à l'hôpital, à Marseille, à Angers, à Nantes, à Nancy, à Paris, dans le Neuf Hôpitaux.
Et puis, un peu.
Merci de nous recevoir.
On peut vous donner de l'argent aussi à votre association,
le Rire Médecin. C'est bienvenu. Hein? Les donateurs, vraiment, c'est la plus grande chose qu'on peut faire pour nous, pour le moment, à part les comédiens professionnels qui jouent, c'est de nous aider financièrement.
Gaël Giraudeau, on ne vous donne pas d'argent, mais des applaudissements à venir au cadeau à Orléans.
J'espère.
Pour La vie est un songe de Calderon. Bonne suite.
Merci beaucoup. Hein? Merci à vous.
C'est votre sœur qui, dans Télérama, Sarah Giraudeau, disait c'est pas simple d'être fils d'eux et fille d'eux. On pense que c'est gagné pour nous, mais c'est compliqué aussi d'avoir une identité propre.
Exactement, ouais.
Vous dites la même chose.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Annie Dupéret, vous vous êtes dépeinte longtemps comme une funambule au-dessus d'un lac noir, oui. En tout cas avant 40 ans. Cette funambule est loin maintenant.
Oui, elle a atterri.
Est-ce que vous diriez que vous êtes heureuse aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Je crois que je peux le dire. J'ai dit je crois parce que c'est cette phrase, le jour où j'ai voulu arrêter d'être heureux, d'arrêter de courir après le bonheur, j'ai été heureux. Je crois que c'est peut-être ça. Je prends les choses comme elles viennent, au jour le jour, avec mes amis, avec... oui, je crois que je suis bien. Oui.